Décryptage, Marie Cazadebé.
Dans la nuit de lundi à mardi, il a plu pendant 7 heures non-stop sur Abidjan, en Côte d'Ivoire. Une pluie torrentielle sur cette métropole de plus de 5 millions d'habitants en croissance continue. 20 personnes ont trouvé la mort. Abidjan s'est réveillé avec par endroits 2,50 m d'eau dans les maisons.
Oui, c'est une inondation là, à chaque fois. Ça nous fait plus de 6e fois. À chaque fois, s'il y a une grande pluie, c'est ce qui se passe.
Et vous voyez les traces?
L'eau, c'est l'eau qui est montée. C'est l'eau qui est montée jusqu'à à chaque fois. On demande au gouvernement de faire tout possible puisque ça ne se répète plus.
Chaque année, à la même époque, de grandes villes africaines se retrouvent ainsi les pieds dans l'eau et souvent, malheureusement, elles comptent leurs morts. Les Nations Unies s'inquiètent déjà des inondations dont pourrait souffrir la région de Niamey au Niger, endeuillée déjà l'année dernière. Alors, comment expliquer ces drames à répétition? Peut-on les éviter? C'est ce que l'on va voir avec nos invités. Bienvenue dans Décryptage. Bonsoir Guillaume Josse.
Bonsoir.
Merci d'être en studio avec nous. Vous êtes urbaniste, géographe et directeur du groupe 8, un bureau d'études spécialisé dans le développement urbain et municipal dans les pays du Sud. Et nous sommes aussi avec Thierry Dogbo en ligne d'Abidjan. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes donc architecte. Alors l'an dernier, les pluies avaient déjà provoqué la mort de 15 personnes à Abidjan, 16 en 2015, 19 en 2014, et l'on pourrait comme cela remonter à des décennies. L'histoire se répète dans la capitale économique ivoirienne, comme ailleurs sur le continent à cette saison. En l'occurrence, ce sont les quartiers de Cocody, Yopougon, Adjamé, Port-Boué qui ont été les plus touchés. Le premier ministre ivoirien qui présidait la cellule de crise a dit « Les zones à risque, nous les connaissons, ce sont toujours les mêmes quartiers ». Thierry Dogbo, qu'est-ce que ces quartiers ont en commun?
Ces quartiers ont la malheureuse particularité de recevoir un petit peu tous les bassins versants de la ville d'Abidjan. Comme ce sont des quartiers qui sont en point bas, donc ils reçoivent toutes les eaux qui viennent des quartiers hauts, Abobo, Yopougon aussi, mais qui est également un point bas et donc qui reçoit ces inondations.
Et Guillaume Josse, voilà. C'est ce que l'on appelle les zones inondables?
Exactement. Des zones qui sont inondées régulièrement dès qu'il pleut un peu trop.
Ça veut dire juste qu'elles reçoivent, comme on le disait finalement, l'eau qui vient des communes un peu plus hautes?
C'est des eaux qui, voilà, c'est comme une... C'est un bas-fond, l'eau va toujours vers le bas, quel que soit le pays, quelle que soit la ville. Et quand il pleut trop et que le sol n'arrive pas à absorber, faute de végétation, parce qu'il y a eu des constructions, donc le sol est imperméable, l'eau va d'abord s'infiltre moins et surtout elle va beaucoup plus vite, ce qui explique aussi la violence des inondations en aval.
Thierry Dogbo, comment vous pourriez décrire les quartiers qui ont été les plus touchés? Est-ce qu'il s'agit d'un habitat dur ou des quartiers populaires, des bidonvilles?
Sur le cas de Cocody, il y a eu tout type de quartiers qui ont été touchés. Ceux qui étaient donc dans les bassins versants, mais également tous les quartiers qui sont des standings moyens, et notamment toutes les promotions immobilières qui se sont établies un petit peu dans le nord-est d'Abidjan. Donc ce sont des quartiers qui ont été construits très rapidement, parce qu'on assiste à une urbanisation galopante. Abidjan, il faut compter qu'on a quand même 4 700 000 habitants. C'est une ville urbaine qui se développe de par le fait qu'elle devient de plus en plus industrialisée. Il y a de plus en plus de monde qui sont descendus sur la ville avec les vilains événements que nous avons eus les années précédentes. Et donc la ville est un petit peu surpeuplée et a un petit peu de mal à accepter toute cette population au niveau habitation, mais au niveau de tout ce qui est aussi de réseaux d'assainissement qui sont sous-dimensionnés par rapport à cette urbanisation galopante.
On va y venir dans ce décryptage.
Les sols ne peuvent plus accueillir les eaux. Et aussi, il y a un phénomène de réchauffement climatique qu'il ne faut pas négliger, parce que toutes ces pluies sont assez inhabituelles.
Voilà, on va s'arrêter un moment sur ce climat, le climat tropical donc d'une grande partie du continent, notamment de la Côte d'Ivoire. Guillaume Josse, c'est une saison sèche, une saison humide, plus ou moins longue. Est-ce que c'est un climat qui est plus à même de provoquer des inondations?
Non, parce qu'il y a plein de villes en fait en climat tropical humide qui ne sont pas inondées parce qu'elles sont organisées pour. Je prends les villes du sud-est asiatique qui ont été conçues pour vivre avec l'eau. Alors même si parfois il peut y avoir des inondations, mais Bangkok, Ho Chi Minh ou Hanoï, et vous avez des inondations catastrophiques dans des climats beaucoup plus secs. Où il peut pleuvoir simplement quelques jours par an, mais quand il pleut, ça peut être catastrophique. C'est un peu l'exemple de Niamey. Ou de N'Djamena au Tchad, où en fait il pleut quand même beaucoup moins qu'en Côte d'Ivoire, à Abidjan, et les inondations sont tout aussi catastrophiques.
Clairement, ce sont des villes qui n'ont pas été construites en fonction de leur climat.
En fait, elles ont été construites en fonction de pas grand-chose, juste en fonction du nombre d'habitants qui sont venus y habiter et qui ont eux-mêmes fait la ville. Ce sont ces habitants qui ont fait la ville. Alors, il y a plein de choses. Ils l'ont faite parce qu'il fallait la faire et parce qu'il fallait se loger, il fallait trouver du travail. Mais il manque la construction des infrastructures publiques qui permettent d'accompagner cette urbanisation.
Thierry Dogbo, vous observez, vous, l'évolution de ce climat, vous le disiez. Les pluies, par exemple, de cette année sont particulièrement importantes?
Elles sont particulièrement importantes, inhabituelles, et puis on est un petit peu confronté à un dérèglement mondial, puisque les saisons ne sont plus déterminées à des dates régulières. Donc ceci explique un petit peu cela. Mais par rapport à ce que M. Joss disait, c'est vrai que nous, nos villes africaines se sont construites un peu plus tardivement, et donc il y a eu des... notamment au niveau des réseaux d'assainissement, des appréhensions qui n'ont pas été toujours faites, mais il y a quand même un gros travail quand même qui est fait, notamment à Abidjan, je veux dire avec la nouvelle administration au niveau du ministère de la Construction, les travaux qui ont été faits avant du fait de ces catastrophes précédentes, il y a quand même un gros boulot qui est en train d'être fait. Mais c'est énorme, je suis un petit peu d'accord avec M. Jean.
Oui, on va y venir aux solutions...
Ouais.
On va y venir aux...
Il y a des solutions.
On va y venir à ces solutions, mais d'abord, on va rester sur cet état des lieux. Il va falloir se préparer à des précipitations de plus en plus violentes, de plus en plus soudaines, et donc adapter aussi nos villes.
Ma petite là a dû nager pour sortir, mais là, parce que les portes étaient verrouillées, il fallait qu'on casse, parce que le courant commençait à nous secouer les jambes. D'abord, pour sortir de la chambre, c'était compliqué, il fallait pousser, puisque la force de l'eau, il faut vivre quoi pour comprendre.
Le témoignage d'une habitante de Cité Alhambra, Riviera 3, à Abidjan. En Afrique subsaharienne, 60% des urbains vivent dans des habitats informels, donc des bidonvilles. Ils sont plus vulnérables en cas d'intempéries, ça on peut le comprendre. Mais Guillaume Jos, ça veut dire aussi qu'une grande partie de cet urbanisme est totalement incontrôlé?
Oui, en tout cas, il n'est pas accompagné des infrastructures publiques. Il peut être contrôlé au niveau local, hein, avec des gens qui s'organisent, qui font des routes, qui essaient de faire quelques petits équipements. Mais il manque en général la couche des grands équipements, et notamment l'assainissement et le drainage.
Et ça veut dire qu'une fois que ces quartiers sont installés, alors dans des endroits inondables, on l'a dit, même s'ils ne le sont pas sans infrastructure, est-ce qu'on peut ensuite, une fois que le quartier est installé, y ajouter, l'adapter finalement, voilà, avec des infrastructures adaptées au climat, l'assainissement, comme vous le disiez?
Oui, il y a toujours des solutions techniques. Alors après, il y a certainement des quartiers, notamment à Abidjan, mais dans toutes les villes qui sont... ce sera très compliqué de les sortir de l'eau et de les rendre, d'amener l'assainissement et le drainage. Néanmoins, sur la plupart des quartiers, on peut faire quelque chose. Au niveau des habitations, au niveau des jardins, par exemple, dans les espaces publics, en creusant des canaux, mettant des drains pour amener l'eau. C'est possible. C'est beaucoup plus coûteux de le faire une fois que les gens sont installés. Qu'évidemment, quand on anticipe les choses.
Et dans les quartiers où ils existent, ces systèmes d'égouts, voilà ce que l'on peut entendre.
Mais ce sont les caniveaux qui sont complètement bouchés. C'est une des raisons, non seulement la population elle augmente, mais aussi les caniveaux sont très, 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 très mal gérés. Personne ne gère ça. On est désespérés là.
Thierry Dogbo, on parlait de quartiers où il n'y avait pas d'infrastructure, mais là où il y en a, c'est quoi le problème? Qu'est-ce que souligne cette femme? C'est un manque d'entretien ou de civisme?
Les deux. Je vais dire un peu une majorité supérieure pour le civisme, parce que vraiment, on est quand même responsable un petit peu de ces choses à peu près 70%. Et il y a vraiment un incivisme par rapport à la propreté, on jette par terre... Comme on dit, on nettoie chez soi, on jette dehors, on se soucie pas réellement de l'importance des caniveaux. C'est quand il y a les catastrophes qu'on se rend compte que c'est bouché. Il y a un très très grand incivisme, mais également derrière, je pense quand même qu'il y a un petit peu aussi un manque d'entretien de ce caniveau, qui devrait être l'affaire de l'État ou des mairies. ou d'associations, mais il y a un grand champ pour pouvoir résoudre ces problèmes-là. Mais beaucoup d'incidents.
Guillaume Joss, des canalisations bouchées, là on parle de bouchées par des déchets, hein, et mal entretenues, c'est un problème que l'on retrouve dans beaucoup de grandes villes du Sud. Là, vous diriez que le problème, il vient d'où une fois qu'on a installé des infrastructures, il faut les entretenir.
C'est universel. Hélas, partout dans les grandes villes du Sud, on trouve la même problématique, c'est-à-dire que, certes, il y a peut-être de l'incivisme, mais je suis pas sûr qu'il y ait moins d'incivisme en France qu'il y en a en Afrique, par exemple. Mais il y a surtout beaucoup moins de ramassage des déchets réguliers, du porte-à-porte, des brigades qui vont nettoyer les caniveaux régulièrement, etc. Il n'y a pas que les déchets, il y a aussi tout simplement le sable qui est transporté par la pluie et qui se dépose au fond des caniveaux. Donc même si les gens avaient un civisme parfait, il faudrait de toute façon, avant chaque saison des pluies à minima, et probablement une fois pendant la saison des pluies, curer ces caniveaux, les entretenir. Aujourd'hui, on n'a pas les moyens de le faire, parce que les priorités sont partout. Il faut aussi faire des écoles, des hôpitaux, il faut aussi faire des plans d'organisation de la ville. Enfin, il y a tellement de priorités qu'on a du mal à mettre les financements nécessaires, par exemple sur la collecte des déchets.
Ça veut dire que c'est un choix. On fait le choix, finalement, d'investir ailleurs. Est-ce que vous pensez que les grandes villes n'ont pas vraiment conscience, en fait, des problèmes
si
que cela
les,
peut, cela
tout
peut
tout
engendrer?
Tout le monde en a conscience, mais c'est une question de choix, oui, mais c'est un choix purement théorique. Parce que dans la réalité, qui peut choisir entre une école ou un réseau d'assainissement? Il faudrait faire tout en même temps. Aujourd'hui, on n'est pas capable de faire tout en même temps. Donc on peut espérer que petit à petit, on arrive à régler la question.
Thierry Dogbo, une ville comme Abidjan n'a pas les moyens d'entretenir ses caniveaux? Ou n'a pas fait ce choix-là?
Elle a fait ce choix-là, mais c'est une histoire de moyens, je suis d'accord avec Monsieur Joss. C'est vraiment une histoire de moyens. Mais je reste quand même persuadé également qu'il faudrait impliquer un peu plus les populations, parce que l'État ne peut pas tout faire. Comme a dit Monsieur Joss, si l'État ne peut pas tout faire, il faut que les citoyens s'impliquent un peu plus que... Je suis un petit peu strict là-dessus, parce que nous-mêmes, nous sommes concernés, les architectes, nous sommes responsables également sur certaines... réalisations qui ne sont pas réalisées, faites selon les règles de l'art. Donc tout le monde est concerné, aussi bien les citoyens que les professionnels de la chose.
Et ça donne quand même le sentiment que ces grandes villes n'ont pas forcément les moyens d'être aussi grandes, Guillaume Joss, je ne sais pas si vous comprenez
absolument,
la forme de ma pensée.
Non, je suis absolument d'accord. Et si on prend l'exemple d'Abidjan, mais c'est exactement la même chose à Dakar ou à Kinshasa, ces villes vont ou doubler ou tripler de population en une génération, dans les 20 ans qui viennent.
Oui, elles ont déjà doublé, effectivement.
Elles ont déjà doublé, elles ont déjà même souvent quintuplé ou décuplé, mais elles vont encore doubler ou tripler de population. Ça veut dire qu'Abidjan aura probablement 10, 12, 15 millions d'habitants dans une génération. Donc le problème ne fera qu'empirer, sauf si on arrive à trouver des systèmes vraiment efficaces qu'il faut mettre en place maintenant.
Alors vous l'avez dit, déjà en 20 ans, la population urbaine a été multipliée par 2 sur le continent pour atteindre près de 500 millions de citadins. C'était en 2015, selon les Nations Unies. Il devrait frôler les citadins le milliard au cours de ces 20 prochaines années. La ville de Dakar, par exemple, a été conçue pour accueillir 300 000 habitants. Elle en compte aujourd'hui 3 millions, extrait d'un reportage réalisé par notre correspondant à Dakar. C'était il y a tout juste 2 ans.
Après la pluie, c'est le beau temps, mais ici, c'est pas comme ça.
En moins de 15 minutes, l'axe principal de Wakam s'est transformé en rivière, de l'eau jusqu'aux genoux. Adama a dû abandonner son scooter.
Quand il pleut, nous, on ne dort plus parce que les maisons sont inondées, la route, tu le vois comme ça, c'est la galère.
La boutique de Khalil, malgré un petit muret de protection, est sous les eaux. Le commerçant est impuissant.
La pile est là-haut, c'est beaucoup de... c'est grave maintenant. Okay. Ah, comment faire?
S'il n'y a pas de caniveau, on attend le gouvernement, parce que ça, c'est pas bon.
Que ça soit un peu d'eau ou pas, la maison est inondée. Tout le temps, la saison des pluies, ça, j'en ai peur. Si j'entends parler de ça, j'en ai peur.
Là, on le sent bien, Guillaume Joss, ces équipements publics ne suivent pas vraiment l'explosion démographique dans les grandes villes comme à Dakar. Là, on parle de Wakam, c'est quand même le centre de la capitale sénégalaise. C'est vraiment le problème, là, les infrastructures ne suivent pas.
Alors, d'abord, il n'y a pas d'urbanisation contrôlée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à ma connaissance, en Afrique subsaharienne en tout cas, excepté l'Afrique du Sud qui est un cas tout à fait à part, aucune ville n'est capable d'empêcher l'urbanisation de zones inondables. Zones inondables, c'est-à-dire dont on sait qu'elles seront inondées, même si on n'a pas une pluie exceptionnelle. Les gens s'installent là, essentiellement pour être près des zones d'emploi, Et ils s'installent là parce qu'ils n'ont pas d'autre solution. D'abord parce que c'est évidemment les derniers terrains libres, ce sont toujours les terrains inondables ou les terrains dangereux. Et par ailleurs, ils n'ont pas, voilà, moins cher. Enfin, encore que ça peut être assez coûteux. Et ils n'ont pas d'alternative, c'est-à-dire qu'on leur dit pas, voilà, ici vous aurez des parcelles viabilisées que vous pouvez éventuellement autoconstruire, mais avec un minimum de sécurité, un minimum d'environnement urbain acceptable. Il n'y a pas ça, donc les gens se mettent là où ils peuvent.
Quand vous dites que les villes n'ont pas les moyens de faire respecter en tout cas un plan de construction urbaine, quels sont ces moyens? Alors là, vous dites, effectivement, elles n'ont pas les moyens d'aider des familles à s'installer ailleurs, mais elles n'ont pas les moyens aussi de faire respecter la loi, parce que pour le coup, le plan de construction urbaine devrait être respecté quand il y en a un.
Alors Abidjan, il y a un schéma directeur d'Abidjan, c'est-à-dire un document qui dit où on doit construire et où on ne doit pas construire. Ça existe à l'échelle des communes, à l'échelle du district. Et
alors pourquoi ça se fait quand même?
Alors on peut dire que c'est voilà des questions politiques et de choix, mais comme c'est le cas absolument partout, il y a la difficulté à imposer des choix, parce que le meilleur moyen d'organiser la ville, c'est de proposer des alternatives à la population, c'est-à-dire de construire cette ville.
Thierry Dogbo, ce plan de construction urbaine à Abidjan est difficile à mettre en œuvre, à faire respecter. Pour quelles raisons?
Je rejoins un petit peu, mais déjà, sous compléter, il y a une pression urbaine énorme. Je vous ai dit que la population a doublé et tous ces gens ont besoin d'habiter. On a un déficit d'à peu près de 100 000 logements sur Abidjan. Ceux qui se chargent de l'urbanisme, comme on dit, c'est pas contrôlé, ils ont des zones, ce sont les promoteurs immobiliers qui proposent des zones de promotion immobilière pour que les gens habitent. L'État ne peut pas, particulièrement l'empêcher, ou bien s'il y a des débordements sur des zones qui ne doivent pas être construites, n'arrive pas réellement à empêcher cela à cause de cette pression. Les gens ont besoin d'habiter.
En 2012...
Alors, l'État ne peut pas répondre à cette solution-là. Il y a une solution privée qui prime. Voilà.
En 2012, Thierry Dogbo, 6000 familles qui étaient installées dans des zones inondables à Abidjan ont été déplacées avec un coup de pouce financier. Ça veut dire tout de même qu'il y a des alternatives. Est-ce que ces solutions sont pérennes?
Non, pas vraiment, parce que on déplace un petit peu les problèmes. C'est ce que je veux dire. C'est vraiment un tout petit coup de pouce alternatif. Le problème est nettement plus important que cela.
Alors pour bien comprendre quelle est l'importance et l'impact de ces grandes villes qui ne cessent de s'étendre, on va prendre l'exemple de Kampala, la capitale ougandaise. Elle a vu sa superficie multipliée par 5 en 20 ans. Ça signifie finalement, Guillaume Joss, autant de nature, de forêts, de zones humides qui disparaissent. Et si l'on en revient à nos problèmes d'inondation, quels sont les effets?
Les effets, c'est des inondations de plus en plus nombreuses, parce que d'abord, il faut savoir que les villes croissent beaucoup plus vite en superficie qu'en population, à peu près 2 fois plus. Donc si Abidjan double de population dans les prochaines années, sa superficie va être multipliée par 4. Et finalement, quand on regarde avec un peu de recul les choses, il n'y a aucune raison que la situation s'améliore nettement, sauf si on change la manière de produire cette ville et qu'on accompagne les populations qui s'y installent.
Mais pour qu'on comprenne bien, les inondations sont dues aussi au changement de sol. Il n'y a plus de nature, il y a quoi? Du béton, c'est ça qui fait qu'à un moment...
Il y a du béton, il y a de la latérite tassée, il y a des caniveaux.
Oui, la voirie, disait...
La voirie, il y a les sols ravines, donc finalement se créent des canaux plus ou moins naturels qui vont... et qui n'ont pas d'exutoire. Le problème, c'est que l'eau stagne là où elle peut stagner, et elle déferle... là où on lui donne la possibilité de passer.
Guillaume Joss, une dernière question pour conclure cette émission. À Niamey, depuis la saison des pluies dernières qui a été vraiment meurtrière, les autorités ont construit des digues pour protéger la capitale. Est-ce que ça peut être une bonne solution, en tout cas pour Niamey?
Pour Niamey, je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste de l'hydraulique à Niamey, mais j'ai toujours des doutes sur le fait de mettre des digues. Je pense qu'il vaudrait mieux vivre avec l'eau, parce que l'eau, elle sera là de toute façon. Et c'est une problématique universelle. Juste, on peut penser à Venise, qui a exactement la même configuration géographique qu'Abidjan.
Voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Guillaume Joss. Et merci à Thierry Dogbo, architecte à Abidjan. Merci à Eleonora Farad, Gérard Perrault, Cécile Rogue et Fabrice Violet. Émission à retrouver sur les réseaux sociaux et RFI.fr.